je donne à présent la parole à Sally Rousset, donc pour une passe aussi une présentation de 15 minutes.
Bonjour. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Donc, mon intervention portera sur la réflexion dans laquelle notre réseau s'est engagé ces dernières années, c'est-à-dire les rapports entre le vivre ensemble, la laïcité ou comment gérer la diversité religieuse et les changements de modèles de développement. Nous avons choisi cet angle de réflexion vu l'importance et la gravité des problèmes et des conflits de caractère religieux ou communautaire dans beaucoup de nos pays. En Asie, la montée des courants extrémistes, qu'ils soient musulmans, hindous, bouddhistes ou chrétiens, est notable, alors que se renforcent en Europe des mouvements xénophobes dirigés notamment contre les musulmans. Ayant eu plus de possibilités d'engager cette réflexion dans le cadre du Forum populaire Asie-Europe, où participent des organisations asiatiques et européennes, je ferai référence aux expériences dans ces deux régions. Donc, on a la possibilité ici déjà aussi de parler des expériences africaines, et je laisse à la salle et aux autres intervenants, en fait, d'enrichir notre réflexion avec leurs propres expériences. Chaque année apporte son lot de violences intercommunautaires ou commises au nom des religions. En Inde, les minorités religieuses, c'est-à-dire les musulmanes, les chrétiennes, sont soumises à des attaques dans une logique d'épuration communautaire qui ont fait des milliers de victimes. Fin 2008, début 2009, au Sri Lanka, pays à majorité bouddhiste et minorité tamoule, la guerre contre les tigres tamouls a pris des formes paroxysmiques. Début 2011, au Pakistan, où les attentats religieux peuvent faire des centaines de morts par an, le gouverneur du Punjab a été assassiné par l'un de ses propres gardes du corps parce qu'il s'opposait à l'application de la loi contre le blasphème. De la Chine, les Ouïghours, les Tibétains, aux Philippines, les Moros et les Lumades indigènes à Mindanao, des questions nationales héritées du passé restent irrésolues. Pour aborder ces questions complexes, nous avons voulu partir des cas particuliers en Asie ou Europe, et nous avons cherché à comprendre l'évolution des problèmes au niveau local. L'exercice s'est avéré très intéressant car il montre la diversité des situations, nous forçant à éviter des analyses trop simplistes. En Inde, par exemple, les conflits religieux se superposent aux divisions de castes. L'immense mépris des castes dominantes envers les membres des castes dominées ou des hors-castes qui leur a donné un droit de vie et de mort sur leur inférieur a servi de matrice à l'intolérance religieuse. Les solutions exigent l'intervention des acteurs directement concernés et la prise en compte du contexte local autant que national. C'est en comprenant les situations concernées dans leur diversité que nous pouvons nous unir. Ça, je pense, c'est important. Les gens ont dit ça. C'est dans la compréhension des autres, de leur diversité, que nous pouvons nous unir dans des combats communs pour une paix durable. Il nous paraît très important de poursuivre et d'élargir ce type de recherche-action. Qu'avons-nous appris de ces échanges? Il m'est impossible de revenir sur toutes les richesses ici. Sans chercher à être exhaustif, je voudrais me contenter de présenter 7 points. Excuse-moi, 7 points, mais je vais aller vite. Première, que bien, et peut-être ça peut conforter déjà aussi quelques observations dites tout à l'heure, que bien des conflits territoriaux, locaux, intercommunautaires, qui peuvent prendre une expression religieuse, sont fondamentalement politiques et qu'il y a des facteurs économiques sous-jacents. Ils ont souvent pour enjeu le contrôle de l'accès aux ressources naturelles, la terre, l'eau, la forêt, les richesses minérales. Cet enjeu est d'autant plus aigu que la mondialisation néolibérale, l'immigration massive nourrie par la pauvreté et la crise sociale aggrave le sentiment d'insécurité des populations. Deuxième point. Si des conflits socio-économiques prennent aussi une forme religieuse ou communautaire, c'est aussi que les réponses séculières et solidaires, traditionnellement portées par des forces de gauche, ont perdu de leur crédibilité à la fin du siècle passé. Il nous faut donc travailler sur 3 plans à la fois. D'abord, mettre en avant des expériences sociales et citoyennes qui permettent de rassembler sur des objectifs communs des femmes et des hommes de toute communauté sur droit à la terre, à un travail décent, à la santé, à l'éducation, à un environnement sain. Deuxième, éduquer à la connaissance et à la compréhension mutuelle. Là où, par leur durée et leur violence, les conflits ont créé un mur d'incompréhension alimentant le racisme, le communautarisme, l'ethnicisme, la xénophobie. Et troisième, refonder une perspective solidaire, recréer un horizon commun qui rende à nouveau crédible le combat pour une société de vivre ensemble et de l'égalité. Mon troisième point. Mentionnons ici en particulier la question de la laïcité. Sophie a déjà parlé aussi là-dessus. La laïcité n'est certes pas une condition suffisante pour garantir le vivre ensemble et faire barrage au racisme et à la xénophobie. On peut voir déjà la situation en France, par exemple. Mais la laïcité apparaît bien comme une condition nécessaire à cet horizon commun qui doit rassembler des personnes de toute confession ou croyance ou sans confession aucune. La laïcité implique la séparation de l'Église et de l'État. C'est un principe réciproque de non-interférence des Églises dans l'État et de l'État dans la vie des Églises. En excluant l'existence d'une religion d'État, elle peut garantir des droits des confessions minoritaires. Elle permet aussi le fonctionnement d'une démocratie où citoyennes et citoyens décident communément des lois et des choix politiques. Certes, un État laïque peut ne pas être démocratique. Il y a des dictatures laïques et pas seulement théocratiques. Mais un État démocratique doit être laïque. Il serait intéressant de réfléchir plus avant au rapport entre laïcité institutionnelle et sécularisation de la vie politique, des pays européens comme la Grande-Bretagne jusqu'en 2008 ou les Pays-Bas ont des lois criminalisant le blasphème, une sérieuse entorse à la laïcité, mais elle n'était plus appliquée. La situation dans des pays comme le Pakistan montre quelle dynamique infernale de telles lois peuvent initier quand la pression des extrémistes religieux l'emporte. Traversant une crise sans précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'avenir des sociétés européennes devient indécis. Les Européens peuvent apprendre des leçons d'Asie à l'heure où la xénophobie fait des ravages croissants. Une fois débridée, l'intolérance ne s'arrête pas aux seuls étrangers. Au Pakistan, les violences sectaires opposent les musulmans aux musulmans. En Europe, les attaques contre les droits des immigrés pavent la voie aux attaques contre les droits de toutes et de tous. Les lois d'exception finissent par devenir la règle commune. Quatrième point, en tout cela, la responsabilité des mass médias est grande. Ils peuvent se faire l'instrument des intolérances religieuses ou au contraire combattre les clichés qui stigmatisent les minorités et servent de justification aux violences. Mon cinquième point, mentionnons maintenant aussi l'importance du droit des femmes. Ce sont en effet ces droits qui souvent sont les premiers mis en cause quand la laïcité recule ou quand les extrémismes religieux se renforcent. Outre un droit humain fondamental, les droits des femmes sont un test qui indique dans quelle direction une société évolue. Et Sophie a bien dit que s'il n'y a pas, en gros, s'il n'y a pas ces droits des femmes qui sont respectés, bah, toute la communauté, les droits des communautés ne sont pas là. Sixième point, poursuivons sur l'exigence démocratique. Il n'y a pas de bonne gouvernance qui ne soit fondée sur une démocratie vivante. Tant au niveau local et national, pour être efficace, les réponses solidaires aux crises multiformes qui minent nos sociétés doivent être démocratiques. Et septième point, dernier. Intolérance et communautarisme sont aujourd'hui, dans une large mesure, au moins des réactions face à l'ampleur de la crise de la modernité, de la mondialisation néolibérale. Le dialogue est indispensable pour rétablir une compréhension mutuelle, pour voir dans la diversité une richesse et non une menace. Il faut savoir écouter, il faut savoir apprendre. D'ailleurs, une proposition qui a été faite, c'est continuer de faire des recherches au niveau local pour comprendre ce qui se passe vraiment dans la communauté, au niveau des problèmes, au niveau des religions, au niveau des conflits, parce que ça, c'est une base importante pour vraiment faire des choses en commun. Mais ce dialogue, pour être efficace, ce dialogue doit aussi déboucher sur des engagements communs. On ne peut refouler les peurs identitaires en appelant seulement à la bonne volonté ou à des valeurs humanistes. Il faut s'attaquer en même temps à ce qui alimente la peur de l'autre en combattant ensemble l'insécurité sociale, en défendant les droits collectifs, en répondant à l'exigence démocratique et d'égalité. Voilà, et enfin, je voudrais vous inviter à prendre connaissance de nos publications, le travail de notre réseau Développement et Civilisation Libre et Fed, les comptes rendus de nos ateliers, des articles qu'on a privilégiés publiés. Et on a une table là où nos amis du réseau ont présenté ces travaux. Vous pouvez les prendre. J'espère que ça peut aider à la réflexion. Voilà, merci beaucoup.